Bien, bonjour à tous, et c'est le moment de notre émission mensuelle Un moment pour la Terre avec France Nature Environnement et Martine Vallon, sa présidente. Bonjour.
Bonjour, bonjour à tous et à toutes.
Accompagnée par Pierre Frappa pour la seconde fois pour cette émission. Bonjour,
oui, bonjour.
À tous les bonjour deux. Tous. Et je vous laisse le soin de présenter. Cette émission est une suite de celle du mois dernier.
Oui, voilà. Tout d'abord, je souhaitais présenter les vœux de France Nature Environnement à l'ensemble des auditeurs que nous avons, je l'espère, de plus en plus fidèles. Donc aujourd'hui, nous allons effectivement prendre la suite d'une émission qui a été faite en fin d'année 2016, qui concernait la question de la biodiversité. Et donc Pierre Frappa avait terminé cette intervention par le questionnement sur ce qu'on appelle les mesures compensatoires. Donc pour le dire d'une façon un peu simple, les mesures compensatoires, c'est ce qui est prévu à l'heure actuelle lorsque, dans le cadre du développement d'un projet, d'un aménagement ou d'une organisation quelconque, il est impossible de ne pas faire des dégâts à l'environnement. Donc, en gros, on peut dire que on essaie, par ces mesures, de concilier développement, donc développement économique, développement de territoire, augmentation des emplois, enfin, bon, tout ce qui va avec l'idée de développement, et la préservation de l'environnement ou la préservation d'une forme de qualité de l'environnement. Et donc, ces mesures compensatoires arrivent dans la suite d'une sorte de démarche qui est posée par rapport aux dégâts sur l'environnement, qui est éviter, réduire ou compenser. Donc peut-être que Pierre peut prendre le relais là pour vous expliquer peut-être de façon plus
stricte. D'abord, on peut le lien avec la biodiversité, Martine l'a bien fait, je crois, avec sur cette question de ce qu'on appelle les compensations environnementales ou compensations écologiques. En fait, il faut voir que c'est un principe qui est relativement ancien dans l'arsenal juridique français, puisqu'il date de la loi de protection de la nature de 1976. Donc le principe, comme vient de le dire Martine, c'est que on a ce qu'on appelle la séquence ERC. Alors E, c'est éviter, réduire, compenser. Donc quand il y a un projet qui a un impact sur l'environnement, l'opérateur de ce projet doit, au terme de la loi, faire tout ce qu'il est possible pour éviter cet impact. Ce qui ne peut pas être évité doit être réduit, et ce qui ne peut être ni évité ni réduit doit être compensé. Alors, compenser, on va y revenir un peu sur ce que ça veut dire et comment ça marche. Mais en même temps, alors je disais que c'est un dispositif relativement ancien, mais qui en même temps a été renforcé par la loi dite loi biodiversité qui a été promulguée fin 2016, quoi, en fait. Hein. Donc là, on a de nouveaux dispositifs et un renforcement de ce principe qui le remet donc au goût du jour et qui le remet d'actualité. Voilà, donc c'est pour ça qu'il paraissait important, enfin, il nous paraissait important d'en dire quelques mots, parce qu'en fait, c'est un peu une nouvelle donne hein, dans les relations, je dirais, entre les entreprises ou les aménageurs un peu de toute nature, hein, public ou privé, et la nature en général. Quoi, hein, voilà.
Alors, ce que je pourrais dire, c'est que effectivement, de notre point de vue, ça présente une double face. Dans un premier temps, on peut se dire effectivement la préservation de l'environnement, la préservation de la biodiversité peut être un frein important aux activités humaines et à certains moments peut venir en contradiction avec une nécessité d'ouvrir une route, de développer, de créer une industrie, enfin bon, donc effectivement, avec tout cet aspect de nécessité de la vie humaine, de créer de l'emploi, de l'activité, etc. Donc, l'idée est de dire, bon, il n'est pas question de mettre la nature sous cloche et de ne plus lever le petit doigt et de rester dans un immobilisme ou bien un retour en arrière. Mais comment pouvons-nous continuer à évoluer tout en évitant de trop détruire. Donc ça, c'est l'aspect, je dirais, positif de cette logique et de cette réflexion. Le souci, c'est que là, on tombe dans une procédure experte ou bien dans une procédure mathématique qui est je coupe une forêt ici d'arbres centenaires, etc. C'est indispensable, c'est un projet d'utilité publique, hein, enfin bon. En parenthèse, on pourrait prendre l'exemple du projet ITER avec la forêt qui était sur ce secteur et qui a été détruite. Et donc, puisqu'il s'agit d'un projet extrêmement important de recherche, d'avenir, etc., on ne peut pas le faire autrement, on ne peut pas le faire ailleurs, on souhaite qu'il soit là. Donc, on va compenser les dégâts en achetant de la forêt ailleurs. Ou en mettant un système de protection sur, voilà, je coupe un hectare et je vais ailleurs protéger un hectare. Le danger, c'est que l'hectare qui est sur ce secteur, aux environs de Vinon-sur-Verdon, n'est pas du tout, en termes de système d'écosystème et de qualité de ses caractéristiques ne sera pas du tout le même que celui qui va être acheté sur la montagne de Lure. Donc ça, c'est déjà un des premiers problèmes qu'on peut relever sur les questions de compensation. Alors, peut-être préciser un peu plus comment ça marche pour qu'on comprenne bien.
Alors, bon. En bref, parce que c'est quand même des procédures juridiques un peu compliquées, donc on ne va pas non plus aller trop loin. Mais la première étape, c'est une évaluation. Ces éléments-là doivent être présentés dans le dossier de demande d'autorisation. Hein, donc, dans un premier temps, on fait une évaluation de la dégradation.
Voilà,
hein, oui. Qu'est-ce qu'on va effectivement détruire en termes d'espèces, d'écosystèmes, d'espèces protégées éventuellement, bon, etc., etc. Donc on fait une première évaluation. Ouais.
Et donc sur ce point-là, l'aspect positif, c'est de dire à partir de ce moment-là, on regarde déjà ce qu'on va faire, ce qu'on risque de faire, et on essaye déjà d'évaluer l'impact de l'action à ce moment-là.
On revient un petit peu après. Ensuite, il y a une deuxième étape, je dirais, qui est on prévoit le financement de mesures ou d'actions qui vont, à supposer qu'on ait avant rempli les conditions des séquences d'évitement et de réduction.
Voilà, oui, donc hein, qu'il ça, soit c'est, impossible ça, c'est, d'éviter c'est ou
très,
de réduire.
C'est très important parce qu'on se rend compte que, enfin j'y reviendrai après, que bien souvent, ces deux premières étapes sont malheureusement un peu balayées, un peu rapidement, pour dire, voilà, on a fait ce qu'on pouvait pour éviter, c'est-à-dire à peu près pas grand-chose. Ah. Hein, on a réduit, c'est-à-dire, bon, ma foi, c'est-à-dire, c'est un peu à la marge. Donc, on peut, de toute façon, on peut le faire parce qu'on va compenser. Voilà. Alors, donc ça, ces actions-là, on prévoit effectivement des mesures de financement. Et c'est là ensuite qu'on va trouver quelles sont ces mesures de compensation qui sont avancées. Proposer. Alors, la première, le principe relativement simple, a priori, c'est qu'on a détruit ici, on va trouver un terrain ailleurs où on va reconstituer l'écosystème qui a été détruit. Alors, on va voir que ça ne se passe pas en réalité tout à fait
c'est
comme ça.
Pas si simple. Hein,
c'est pas si simple. Alors, et puis, l'élément nouveau, et ça qui a été introduit, bien que l'expérimentation existe depuis quelques années, l'élément nouveau qui a été introduit dans la loi biodiversité, c'est la création de ce qu'on appelle des opérateurs de compensation, qu'on a appelé aussi banque de compensation avant. Alors, le terme a été changé parce que banque, ça faisait un peu trop spéculatif, etc. Oui, oui. Donc, on a appelé ça opérateur de compensation. C'est à peu près la même chose. Hein.
Oui.
Tout à fait. Donc, actuellement, alors c'est des organismes divers. Alors, pour prendre trois exemples, ceux qui existent aujourd'hui, le premier, historiquement, c'est la Caisse des dépôts et consignations. Mmh. Hein, à travers une de ses filiales, je dirais, qu'ils appellent CDC Biodiversité. Mais il y a aussi EDF, par exemple, qui est un opérateur de compensation.
Ah bon ?
Il peut y avoir certaines collectivités locales, par exemple le département des Yvelines.
Hein,
c'est doté c'est doté d'un organisme de compensation qui lui est propre, d'un opérateur de compensation. Donc voilà, donc on a, c'est-à-dire que c'est en fait une espèce de banque de terrain. Hein, c'est-à-dire qu'on achète des terrains sur lesquels on fait des travaux et on va pouvoir revendre, entre guillemets, à des opérateurs des parts de ces
hectares virtuels. Oui,
des hectares de plus virtuels. Ou moins virtuels. Bon. Hein, qui sont, bon,
C'est un peu le même système, je dirais, que sur le CO2.
Oui.
Des sortes de quotas qui sont...
Vous détruisez ici un hectare de forêt, eh ben vous financez, vous payez à l'opérateur de compensation, vous lui payez l'équivalent alors que lui a en gestion ou en restauration un nombre d'hectares plus important. C'est-à-dire qu'il y a toujours, on paye toujours plus que ce qu'on a détruit. Hein, voilà, ça c'est un principe qui a été introduit, qui est plutôt vertueux, mais... Qui
est difficile à mettre en œuvre aussi, ouais. Parce qu'après, le problème arrive des critères aussi qui vont permettre d'évaluer la qualité d'un milieu, d'évaluer son intérêt et de savoir quel type de compensation vont pouvoir être utilisées.
Voilà, alors là, c'est bon, j'essaie de pas savoir, enfin, essayer d'être un peu clair sur cette procédure, quoi. On peut ensuite lister alors les différents problèmes, je dirais, que peuvent poser ce principe-là et surtout sa façon, son application. Hein, la première question qui vient d'abord, c'est celle de l'utilité publique. Hein, aujourd'hui, on est dans une situation, les milieux naturels globalement et les espèces naturel, hein, on a dit récemment, la moitié des 50% des vertébrés ont disparu, hein, l'immense majorité des espèces de singes sont menacées de disparition, bon, pas de singes en Europe, hein, en France en tout cas, et un peu en Espagne, comme l'a dit quelqu'un de bien connu, il y a le feu à la maison, quoi. Hein, la maison brûle. Donc, aujourd'hui, il faut se garder, je dirais, des dégradations inutiles. Or, la notion d'utilité publique, qui préside toujours la plupart des aménagements, et notamment les grands aménagements sur les espaces naturels, reste une notion
forte,
incontournable.
Enfin, qui, oui.
Alors qu'on peut s'interroger, effectivement, au regard des destructions que, ce qu'elles peuvent, que ces aménagements peuvent induire, on peut s'interroger sur le sens réel
de l'utilité
du terme même utilité publique. Hein, quelle est l'utilité publique d'un centre commercial, par exemple, hein, je veux
dire, lorsque il est construit dans une zone humide, par exemple, et que donc ça nécessite effectivement de détruire un écosystème qui, par ailleurs, peut être extrêmement intéressant, mais qui n'a pas peut-être une forte valeur emblématique. Hein, parce que la difficulté avec les questions de biodiversité, c'est souvent ça, l'image qu'on peut avoir d'une espèce ou d'un milieu peut influer aussi sur le fait qu'on va le défendre ou pas, en fonction de... on trouvera plus important le panda que la petite grenouille qui vient empêcher le passage d'une autoroute. Donc ça, c'est un des éléments. Ensuite, sur la question d'utilité publique, on peut évoquer le projet de Notre-Dame-des-Landes ou bien l'affaire Sivens, où effectivement là, sont avancées des questions, des nécessités et une utilité publique d'un projet qui vient détruire peut-être des secteurs où on considère, nous, que leur utilité publique et les services rendus sont beaucoup plus importants.
Voilà, donc ça, c'est la première question, hein, qui est un peu préalable, en quelque sorte. Le deuxième problème, je disais tout à l'heure que la première étape, c'est l'évaluation de la dégradation. Malheureusement, je dirais, cette évaluation, de fait, elle est à peu près impossible. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas, sur un espace donné, l'ensemble des espèces présentes, et on n'a pas les moyens de les connaître, ni financiers, ni scientifiques. Hein. On connaît encore moins les interactions entre ces espèces. Donc, qu'est-ce qu'on va évaluer, effectivement, en évaluant les dégradations? On va évaluer toujours quelques espèces un peu emblématiques, prises de façon isolée, hein, mais jamais dans les interactions, alors que l'écologie, c'est la science des interactions. Hein, c'est le... Donc, on est toujours donc dans une évaluation à minima. Donc, si on se fonde sur une évaluation à minima, on va forcément être dans la continuation d'une dégradation, puisqu'il y a toute une partie qu'on a laissée de côté. Voilà. Ça, c'est la première gros obstacle à ce principe, je dirais, de la compensation tel qu'il est défini dans les textes.
Et qui arrive, en fait, ça arrive, je pense, sous cette question de le terme utilisé est de conserver globalement la qualité environnementale. Mais conserver globalement, c'est extrêmement vague quand on veut ensuite essayer de le définir avec des critères qui vont permettre de dire, ah ben voilà, là, il y a tant de pourcents de ça, ça veut dire qu'il y a une telle forme de biodiversité, alors, etc.
L'expression qui a été à la base, je dirais, de cette démarche était la volonté de rechercher des aménagements sans perte nette de biodiversité. Voilà. Sauf que ça, dans la réalité, c'est une jolie phrase.
C'est impossible.
Mais
c'est,
dans la réalité, c'est une vue de l'esprit. Quoi.
C'est trop mathématique pour pouvoir s'appliquer au domaine vivant. Enfin, en gros, c'est un peu ça. La perte nette, c'est vraiment du calcul mathématique et économique de gestionnaire épicier, j'allais dire, qui est complètement hors de propos lorsqu'il s'agit de phénomènes naturels, vivants, mouvants et d'interactions dont on ne peut pas, qu'on ne connaît pas forcément non plus à l'avance.
Voilà, donc on est dans une à la fois dans quelque chose qui relève du vœu pieux et dont on sait dès le départ que de toute façon on n'y arrivera pas.
On fait une pause musicale ?
D'accord, oui.
Allez, je vous propose d'écouter The Garden, c'est Nino Ferrer qui chante ça. reprend cette émission Un moment pour la Terre avec Martine Vallon et Pierre Frappa. On parle donc de compensation par rapport à la biodiversité.
Alors, bon, on reprend le fil de notre, de notre discours, je dirais, précédent. Bon, il faut peut-être s'excuser du côté un peu technique, technique, un peu complexe, mais c'est un sujet d'actualité qui, par rapport aux problématiques qui sont celles des associations d'environnement, qui est aujourd'hui au cœur de la, des questionnements. Alors, il y a une première notion que j'aurais pu, enfin, une première idée que j'aurais pu, qu'on aurait pu développer avant, peut-être au début, c'est de rappeler, je dirais, deux idées ou deux concepts hein, un peu philosophiques, si on peut dire, ou économiques, qui sont les deux termes de valeur et de prix, qu'on a eu souvent tendance à confondre. Hein, une valeur, il y a un grand économiste français qui est décédé il n'y a pas très longtemps, qui était très impliqué sur les questions de biodiversité, qui était Jacques Weber, qui disait que les valeurs n'ont pas de prix. Hein, et je crois que là, effectivement, on est tout à fait dans cette dichotomie, je dirais, entre les valeurs et les prix, c'est-à-dire que on a
oui, c'est une tentative de donner un prix à quelque chose qui a de la valeur.
Voilà. Et là, il y a déjà quelque chose, il y a déjà une
difficulté.
Une difficulté, quoi. Hein, voilà. Alors, un autre problème au-delà de la difficulté de l'évaluation dont je parlais tout à l'heure, il y a un autre problème qui est la durée. C'est-à-dire que les dégradations qui sont effectives
sont définitives,
alors que les mesures de compensation sont limitées dans le temps. C'est-à-dire que, par exemple, les opérateurs de compensation se donnent une trentaine d'années.
Voilà, ils ont une obligation
préservation.
De préservation ou de, si on prend le cas d'une forêt, de gestion de cette forêt qui est donnée en compensation pendant 20 ans ou 30 ans. Donc, si on le regarde à l'échelle de la vie d'une forêt, 20 ans ou 30 ans, c'est même pas la peine d'en parler. Mmh.
Donc cette question de la durée est importante et on s'aperçoit que les opérateurs se refusent, c'est caditaire, hein, c'est le cas de la Caisse des dépôts, se refusent à rétrocéder par exemple les terrains à des organismes publics ou à des associations de gestion d'espaces naturels. Ils en gardent la propriété. Ce qui veut dire qu'au bout d'une trentaine d'années, ils pourront faire ce qu'ils voudront, de fait.
C'est-à-dire que l'obligation, elle est une obligation de gestion sur un certain temps, mais comme le terrain reste propriété de celui qui met en place la mesure compensatoire, effectivement, après ce temps donné, on n'a plus aucun... aucun impact, aucun moyen de.
On pourrait espérer que ces terrains puissent avoir un statut équivalent à celui du conservateur du littoral, par exemple. Voilà. Il y a des terrains qui sont devenus imprescriptibles, impossibles à aménager, du coup, au terme de la loi, etc. Voilà. Donc, ça n'est pas le cas. Il y a donc ensuite une autre question qu'on va se poser, c'est ce qu'on peut appeler la non-équivalence, en fait. C'est-à-dire qu'en réalité, on est sur des terrains, le terrain qui fait l'objet de la compensation, qui est l'outil compensatoire, je dirais, n'est jamais équivalent à celui qui a été détruit. Hein, Martine parlait tout à l'heure du caditaire entre les forêts très méditerranéennes du secteur de Vinon, Saint-Paul-les-Durances, et les forêts de montagne qui ont été achetées en compensation. Ça n'a rien à voir, il n'y a pas d'équivalence. Donc ce qui a été détruit n'est de toute façon pas remplacé. Hein, d'autant plus que les forêts de montagne en question se protégeaient déjà plus ou moins d'elles-mêmes. C'est-à-dire qu'on n'a pas rajouté une
protection supplémentaire ou un intérêt supplémentaire.
On n'a pas de plus-value en termes de valeur environnementale. On reste dans quelque chose voilà, qui fait que la destruction n'est pas effectivement compensée, je dirais, sur le terme. Voilà, donc ça, c'est un problème, je pense, assez important. Et puis, il y a un autre problème que je voulais évoquer, alors on pourrait en développer d'autres, hein, mais c'est que en termes de prospective ou d'avenir, je dirais, les défenseurs de ces principes-là disent qu'il n'y a pas de financiarisation de la nature, il n'y a pas de marchandisation, on ne fait pas de la nature une marchandise. Mais dans la mesure où on lui fixe un prix, parce que c'est quand même ça, au bout du compte, hein, où on met une somme, on dit il faut payer tant de millions d'euros pour tant d'hectares, on a effectivement une forme de marchandisation, hein, puisqu'on lui donne un prix. Hein, et donc on peut aboutir du coup à la définition de ce qu'on appelle un droit à détruire.
Oui.
Hein, dans la mesure où vous payez, puisqu'on s'aperçoit que dans la réalité, les étapes éviter et réduire sont un peu rapidement bâclées.
Plus ou moins. Hein,
voilà, du coup, il suffit de payer la compensation pour avoir le droit de détruire. Et ça, c'est quelque chose qui finalement n'est pas acceptable. Enfin, tout le monde le comprend bien.
Alors, c'est vrai que je pense que tout ce qui est mesures d'accompagnement qui ont été mises en place aussi dans ces cas-là sont souvent faites pour essayer d'éviter cette soustraction nette en disant, bon, il ne suffit pas, dans la question de la compensation, il ne suffit pas de cerner un tant d'hectares par ailleurs et de dire, bon, on met ça sous cloche, mais il y a aussi une idée aussi de... on se doit de mettre en place des mesures d'accompagnement pour permettre une bonne gestion et une amélioration de la biodiversité dans ce secteur qui compense, justement pour avoir globalement une meilleure qualité environnementale. C'est-à-dire qu'en gros, j'assèche la mare de Monsieur X. Pour compenser, j'achète le terrain de Monsieur Y. Et sur ce terrain-là, je vais creuser une mare et mettre des grenouilles et des gros os pour essayer de conserver, de réparer les dégâts et de conserver une qualité environnementale et équivalente et que sur... la commune déterminée, on est par exemple...
Alors, donc ça, c'est réalisable ou pas?
Justement, c'est là un des soucis. Parce que le fait de creuser une mare, de planter des roseaux et de mettre des grenouilles, ça peut fonctionner, mais ça peut ne pas fonctionner du tout. Et puis même si ça fonctionne, ça ne sera pas la même chose de toute façon. C'est-à-dire qu'on ne peut pas recréer totalement... de façon artificielle, quelque chose, et alors donc là je dis une mare, mais quand on parle d'une forêt, c'est des centaines et des centaines d'années, je veux dire, donc on ne peut pas comme ça, en 20 ans,
recréer, déplacer une forêt. Oui.
Voilà.
Alors là on peut ensuite aborder un peu quelques avantages, je dirais. C'est-à-dire qu'effectivement, ça pourrait fonctionner si on prend effectivement des territoires qui ont été dégradés pour d'autres raisons, hein, des friches industrielles, etc., que l'on rend à la nature, je dirais. Hein, là, il pourrait y avoir une espèce de compensation. C'est un peu ce qui s'est fait dans l'accro
avec
la CDC Biodiversité, puisqu'ils ont repris un verger très intensif, pour en faire, pour le rendre, je dirais, à des pelouses naturelles. Le problème, c'est qu'il ne recrée pas du coussou de croc avec ça. Le coussou de croc s'est mis en place au long des millénaires. Hein, oui. Ce n'est pas simplement en enlevant les arbres qui sont dessus que ça va reconstituer le coussou. Donc on ne peut pas dire que un hectare du verger de Caussure qui a été réhabilité compense un hectare de coussou de croc qui a été détruit par une installation industrielle.
Tout à fait.
Hein, ça, voilà. Mais effectivement, la restauration des écosystèmes peut être un intérêt. Il y a des cas aussi où ça peut fonctionner, la compensation, mais à des échelles beaucoup plus modestes, je dirais,
oui. Hein,
et en restant assez humble, je dirais, sur ce qu'on peut avoir comme résultat. Je peux prendre l'exemple qui n'est pas très loin d'ici, sur la montagne de Lure. Il y a pas très longtemps, la commune de Saint-Étienne-des-Orgues souhaitait remettre en route la petite station de ski familiale qui était sur le sommet de Lure. Il y a un habitat là qui est un habitat prioritaire, hein, puisqu'il concerne la vipère d'Orsini, qui est une espèce très, très emblématique et très menacée. Donc, il y a eu des mesures compensatoires tout à fait modestes qui ont été envisagées, qui étaient de restaurer ou réhabiliter certaines parties qui étaient embroussaillées pour recréer
un milieu qui soit
favorable à la vipère, qui permettent de relier des différents sites occupés par les populations de vipères. Voilà. Alors, mais on reste dans quelque chose de très modeste, sur des petits projets, avec des petites mesures qui sont réalisées sur place.
Oui. Et donc, dans ces cadres-là, d'ailleurs, qui sont souvent mieux adaptés, c'est-à-dire qui répondent mieux aux besoins. Alors, c'est vrai que l'ampleur de certains projets ou l'importance des milieux concernés, dans certains cas, fait que effectivement les mesures ne peuvent, enfin, il ne peut pas y avoir de compensation. Alors que sur d'autres secteurs qui restent peut-être des secteurs géographiques plus limités, enfin un impact de projet plus modeste aussi, et donc avec la possibilité d'intervenir sur une zone géographiquement très proche, et donc du coup effectivement le déplacement de la population de vipères peut se faire par exemple sans trop de difficultés, ce qui ne sera pas le cas sur un projet extrêmement important et qui va avoir un impact sur une grande surface par exemple.
Ouais. Il y a un autre avantage dont je voulais parler quand même pour nous, pour les associations, j'irais, hein, de ces nouveaux dispositifs, c'est que c'est aussi un nouvel outil juridique.
Oui.
Hein, qui peut freiner certains grands projets quand vraiment il y a un problème fort de cette compensation. Alors, on peut prendre l'exemple récent, hein, de la décision du tribunal administratif de Grenoble du juillet 2015 à propos du Center Park de Roibon, dont on a beaucoup parlé, hein, qui a jugé que les mesures qui étaient proposées n'étaient pas de nature à compenser effectivement les dégâts qui étaient créés. Voilà. Donc là, on est... ça, c'est aussi un aspect...
Oui.
Malheureusement, je dirais d'une certaine façon, hein, quand il faut en arriver à des recours juridiques, je dirais, ça peut se fournir un nouvel outil aux associations.
Je crois que sur ces questions-là, l'important aujourd'hui, c'est de dire il y a un regard qui prend en compte. Enfin, on a posé sur la table la question des dégâts que peut faire un projet, une réalisation, un aménagement, des dégâts que ça peut entraîner sur le plan de la nature. Donc, déjà là, ça, c'est déjà, je dirais, un point positif parce que, effectivement, quelques années, quelques décennies en arrière, ça n'était même pas envisagé. C'est-à-dire que, voilà, on avait besoin de faire une route, on faisait la route, on avait besoin de faire un barrage, on faisait le barrage, basta, on déplaçait les habitants et terminé. Aujourd'hui, effectivement, quand il y a un projet, il y a un peu plus la démarche de prendre le temps de regarder,
d'étudier,
de voir qu'est-ce que ça peut et qu'est-ce que ça va entraîner. Donc ça, c'est déjà. Et comment, comment, si on peut éviter, effectivement. Alors, ce qui nous pose problème, c'est que c'est trop facilement mis de côté par cette possibilité de compenser, mais la question se pose. Donc ça, c'est déjà bien. L'implication aussi des associations de protection de l'environnement dans ces démarches-là a un côté aussi qui peut être intéressant parce que ça fait intervenir après des experts qui vont permettre de faire les choses et les aménagements avec un peu plus de réflexion et avec un peu plus de connaissance de ce que ça engendre. Après, ça peut être aussi, enfin, on a toujours les deux aspects des questions, c'est-à-dire que l'association qui va être chargée de faire l'accompagnement de tel ou tel projet, qui va être chargée d'aider à la mise en œuvre de la mesure compensatoire, effectivement, elle sera peut-être moins militante sur l'opposition au projet en question. Donc, on a. Bon. C'est le fonctionnement des humains qui intervient là. Je crois que c'est bon. On ne peut pas dire c'est totalement négatif. Non, on est dans une avancée progressive.
Mais il y a de gros risques, je dirais, de gros biais, je dirais, à ce dispositif. Alors il y a un écologue. C'est renommé en France, c'est Serge Muller, qui avait fait une proposition à un moment de modification de la séquence, je parlais ERC, donc éviter, réduire, compenser, en y rajoutant un quatrième item qui était renoncer.
Ah oui.
Hein, c'est-à-dire que si on n'arrive pas à compenser,
on pourrait raisonnablement envisager de renoncer. C'est pas fréquent.
Ça n'a pas été accepté. En fait, la modification n'a pas été acceptée. Mais en même temps, ce pourquoi on peut militer aussi, je crois, c'est à la reconnaissance du patrimoine naturel, un peu à égalité avec le patrimoine culturel.
Oui.
Moi, sur Cadarache, sur ITER, je faisais la réflexion un jour à quelqu'un qui était d'ailleurs chargé de la recherche des sites de compensation. Je lui disais, si le projet ITER avait dû se placer sur l'emplacement de la...
De... Notre-Dame de Paris, ou bien de...
Non, enfin, pas si loin. J'étais plus local. Je lui parlais de l'abbaye de Silvacane. Je dis, si ça avait été sur l'emplacement de l'abbaye de Silvacane, est-ce qu'on aurait rasé l'abbaye pour faire ITER? Alors il m'a dit, non, certainement pas. Alors je dis, ce que vous avez fait, c'est la même chose. Mmh. On a rasé une cathédrale, une cathédrale naturelle, qui a mis... plusieurs siècles à se construire. Mm-hmm. Voilà. Et on ne va pas la reconstruire à côté.
Et oui, c'est... Mais je pense que, voilà, on est toujours sur ces questions prix et valeur. Et là, la faiblesse des mesures compensatoires, c'est qu'on essaye de quantifier, de mettre les prix, les pourcentages. On ne peut pas faire l'équivalent. Un arbre n'est pas égal à un autre arbre. C'est comme ça. Voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour de l'essentiel de ce qu'on voulait dire sur cet aspect-là. Je voudrais donc, avant de terminer, peut-être annoncer un petit peu les quelques événements
à venir pour
le mois de février. Donc nous avons une réunion prévue donc du réseau aménagement durable du territoire et urbanisme qui est organisée par France Nature Environnement PACA sur Aix-en-Provence. Donc ça sera jeudi 2 février de 9h30 à 12h30 à la Cité des Associations à Aix-en-Provence. Et donc ça sera l'occasion d'échanger sur le bilan 2016 et les perspectives 2017-2018. Donc ce sur quoi on va travailler en fonction du nouveau contexte régional, donc les enjeux d'aménagement, c'est-à-dire le SCOT métropolitain ex-Marseille et le schéma régional d'aménagement de développement durable et d'égalité des territoires, donc qui va être le nouvel outil de la région pour organiser spatialement la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et intégrer un peu tout ce qui va, tous les PLU et les SCOT, etc., et tous les progrès, les projets qui seront mis en œuvre. Donc, on a le week-end des 4 et 5 février, les journées mondiales des zones humides. On participe à ces journées de 9h à 19h. Ce sera au mai, à la salle des fêtes des mai, avec une association avec laquelle nous travaillons régulièrement qui s'appelle l'Assistude, donc qui est une association locale. Et donc cette année, ces journées célèbrent la signature de la Convention sur les zones humides, comme chaque année d'ailleurs. C'est, je crois, le moment de sensibiliser le grand public à l'intérêt de ce qu'on appelle les zones humides et qui sont très mal connues. Je dirais, dont l'importance est très mal connue. En fait, nous, on appelle ça, je sais pas, les sagnes, les... Ouais. Et avec un côté un peu péjoratif, ouais. Populairement.
Et on s'aperçoit que c'est des milieux particulièrement menacés.
Voilà.
Qui ont beaucoup régressé, qui sont particulièrement menacés.
C'est ça. Et aussi qui sont particulièrement importants parce que c'est vraiment la naissance de la vie qui se fait dans ces zones-là très souvent.
Et puis il y a des fonctionnalités, qu'on appelle ça comme ça, on a parlé déjà autrefois, des fonctionnalités importantes, des régulations des eaux, d'épuration des eaux qui sont quand même des choses essentielles.
Donc voilà, donc ça sera 4 et 5 février au mai. Et nous avons aussi de prévu, et là j'engage tous ceux qui aiment les forêts à se déplacer. C'est la manifestation dimanche 5 février, qui est la manifestation contre la centrale thermique E.ON à Gardanne, donc la centrale d'Uniper, qui aura lieu, donc, cette manifestation à 10h30 devant la mairie de Gardanne. Donc notre organisation, France Nature Environnement, participera à la marche.
Qui a lieu quand ?
Donc dimanche 5 février. À 10h30 devant la mairie de Gardanne. Donc ça, c'est, c'est cette centrale qui maintenant fonctionne entraîne effectivement une déforestation de certaines zones, forcément pour l'alimenter, une pollution locale importante en termes de danger pour la santé publique.
Qui nécessite encore des importations de bois.
Parce qu'effectivement, nous ne pouvons pas fournir. Et donc, voilà, pour un rendement extrêmement médiocre en termes d'énergie. Donc, voilà. Donc, on fera partie des manifestants de ce jour-là.
Et ce sera le même jour qu'au mai.
On a le samedi et le dimanche.
D'accord.
Donc nous, on va se partager.
D'accord.
Et je pense que le public peut faire la même chose.
Bien, eh bien, on va se quitter sur cette manifestation et se donner rendez-vous donc le mois prochain, le dernier mercredi du mois, de 9h10 à 10h.
Je vous remercie.
Au revoir.
Au revoir.